Nous poursuivons notre étude sur l'épître de Paul aux Corinthiens et nous sommes rendus au chapitre 6 qui nous parle justement des désordres dans l'église de Corinthe. Il y avait beaucoup de désordres. Rappelez-vous que quand on a vu le chapitre 5, il abordait la question de la discipline, qu'il fallait qu'il y ait de la discipline dans l'église et il abordait aussi l'aspect de l'immoralité qui se manifestait dans l'église de Corinthe. Dans le chapitre aujourd'hui, Paul aborde un autre désordre qui régnait à Corinthe. Pas mal de désordres. Et c'était les procès entre chrétiens. En même temps, il revient encore sur une exhortation à fuir la débauche. Les procès entre chrétiens ont lieu quand il n'y a pas d'amour. Quand il y a l'amour, nous allons le voir que les procès n'ont pas de place. Il peut y avoir des différends, mais qui finissent par se régler au nom de cet amour qui existe entre enfants. Et donc, le chant est bien à propos ce soir. Amen. Nous allons lire donc le chapitre 6. Je vais y aller par bloc de versets et on va commencer avec les quatre premiers versets. L'un d'entre vous, lorsqu'il a un différend avec un autre, ose-t-il plaider devant les injustes et non devant les saints? Ne savez-vous pas que les saints jugeront le monde? Et si c'est par vous que le monde est jugé, êtes-vous indigne de rendre les moindres jugements? Ne savez-vous pas que nous jugerons les anges et nous ne jugerions pas à plus forte raison les choses de cette vie? Si donc vous avez des différends pour les choses de cette vie, ce sont des gens dont l'Église ne fait aucun cas que vous prenez pour juge. M'arrête à cela. C'est déjà là, il est parti hein, sur un ton sévère vis-à-vis des Corinthiens. Il s'en prend et donc il rappelle. Quatre fois, nous allons le voir, ne savez-vous pas, parce qu'il suppose que c'est des choses qu'ils doivent avoir su. Lui a séjourné avec eux pendant 18 mois dans cette église, hein, pour l'implantation, pour les former. Pendant 18 mois, il leur a donné tous les rudiments de la vie chrétienne, et donc il suppose que c'est des choses qu'ils savent, il le rappelle, mais sur un ton sévère, ne savez-vous pas, ils étaient supposés savoir toutes ces choses qu'il va reprendre maintenant. Au verset premier, il dit, l'un d'entre vous, lorsqu'il a un différend avec un autre, ça veut dire que les différends, ça fait partie de la vie d'église. Ce n'est pas, il n'y a pas d'église où on va dire qu'il n'y a pas de différends. C'est même en famille, on peut s'aimer autant qu'on veut, mais il peut y avoir toujours un sujet de discorde à un moment donné, mais c'est des choses qui finissent par se régler. Donc, Paul s'en prend très, très vigoureusement au verset premier à ceux qui recourent aux juges païens. Ils disent, ose-t-il s'adresser, plaider devant les injustes. Vous avez un problème et vous osez plaider devant les païens. Il dit, c'est honteux. C'est honteux pour les enfants de Dieu de sortir de l'église et d'aller exposer les problèmes qui devraient se régler à l'interne. Vous allez les exposer vers les non-croyants. Les juges ici, c'est des juges païens. Donc, c'est des non-croyants. Et avec ça, vous espérez projeter une bonne image pour que les gens soient attirés à l'église. J'imagine que si Johan, qui est ici ce soir, avait appris que oh, c'est une église où il y a de la chicane, ça ne lui donnait aucune envie de venir. C'est cela. Donc, il dit, oh, osez-vous aller vers les gens du monde pour aller exposer des choses qui se passent à l'interne. Les choses à l'interne se règlent à l'interne. Dieu a tout ce qu'il faut à l'intérieur de l'église pour que les gens puissent se prendre en charge, puissent arranger les choses. Ce genre de problème, ici, devrait être arbitré entre les frères et les sœurs, et pas par des lois païennes. Au verset 2, il dit ceci, « Ne savez-vous pas encore que les saints jugeront le monde? Et si c'est par vous que le monde est jugé, êtes-vous indigne? Oui, êtes-vous indigne de rendre les moindres jugements? Êtes-vous indigne? » Il rappelle que les saints, c'est-à-dire ceux qui sont mis à part, ce n'est pas ceux qui sont au ciel, nous sommes les saints dans la maison du Seigneur. Ceux qui sont mis à part pour le service de Dieu ont une mission et ils auront une mission d'aider Christ à gouverner le monde quand il reviendra pour implanter son royaume. Vous savez qu'il viendra pendant un temps de 1000 ans, dans le millénium, il viendra implanter le royaume ici sur terre. Et les saints, ceux qui ont été mis à part, seront associés à l'œuvre que Jésus-Christ viendra faire pour gouverner le monde. Quand on dit gouverner, ça prend aussi une part de jugement. Donc, nous aurons le rôle de juger les nations. Pas normal que nous, qui sommes appelés à juger les nations, que nous commencions à recourir à eux maintenant, comme si nous n'avions pas le moyen de régler le problème entre nous. Amen. Donc, durant le millénium, nous serons participant à cette autorité de Jésus-Christ pour juger les nations. Il dit, mais c'est ça. Vous qui êtes appelés à juger le monde, êtes-vous indigne maintenant de rendre les moindres jugements? C'est des petits différends, des fois de rien du tout, mais que l'on grossit et que l'on amène à l'extérieur alors qu'on aurait pu les régler. Il y a plusieurs textes qui nous parlent, que nous serons participants. On va lire Apocalypse. Apocalypse, chapitre 2, le verset 26. Il dit, à celui qui vaincra et qui gardera jusqu'à la fin mes œuvres, je donnerai autorité sur les nations. Amen, c'est clair. Et il les pètera avec une verge de fer. Une verge de fer, ça implique un sens de juger, de régler les problèmes. Comme on brise les vases d'argile, ainsi que moi-même, j'en ai reçu le pouvoir de mon Père, et je lui donnerai l'étoile du matin. À celui qui vaincra, il aura l'autorité de juger les nations, il aura l'autorité sur les nations. Un autre texte dans Apocalypse 3, verset 21, « Celui qui vaincra, je le ferai asseoir avec moi sur mon trône, comme moi j'ai vaincu et me suis assis avec mon Père sur son trône. » Nous serons assis sur le trône, vous imaginez ça? Assis sur le trône avec Jésus, parce que nous formons un avec lui, nous serons sur le trône. Un autre texte dans Hébreux, Hébreux le chapitre 2, verset 5, nous dit ceci. « En effet, ce n'est pas à des anges que Dieu a soumis le monde à venir dont nous parlons. Ce n'est pas à des anges, et nous allons y revenir. C'est à nous, les saints, hein, qu'il a soumis donc le monde à venir. Et c'est ça, nous allons en reparler tout à l'heure, je vais y revenir. Donc, Paul, en fait, en disant ça, il dit, mais il y a des petits problèmes, les moindres jugements, vous n'êtes pas capables. Il se moque, il est en train de se moquer des Corinthiens. Qui, vous rappelez-vous, quand nous avons débuté l'étude de l'Épître aux Corinthiens, c'était des gens qui se prenaient pour des gens qui ont une sagesse supérieure, ils étaient fiers d'eux-mêmes, qu'ils avaient beaucoup de connaissances. Il dit, mais comment ça? Il se moque un petit peu. Il dit, êtes-vous indigne? Tout d'un coup, là, vous qui ne vous êtes pas capable de vous occuper des simples arbitrages entre frères, alors que vous êtes destinés de plus en plus à juger les nations. Il rappelle aussi au verset 3, c'est un peu plus difficile, ne savez-vous pas que nous jugerons les anges? Ne savez-vous pas que nous jugerons les anges? Et nous ne jugerions pas à plus forte raison les choses de cette vie. Je vais lire le commentaire qui est ici dans ma Bible ici. Nous jugerons les anges. Le verbe grec peut signifier diriger ou gouverner. Comme c'est le Seigneur lui-même qui jugera les anges déchus, il cite un passage de 2 Pierre, une interprétation possible de cette expression est que nous exercerons une certaine autorité sur les saints anges dans l'éternité. Et c'est confirmé par des versets. Nous exercerons une certaine autorité sur les saints anges dans l'éternité. Les anges sont des esprits au service de Dieu qui exercent un ministère en faveur des saints, Hébreux 1, 14, nous le lirons aussi. Il semble donc raisonnable de penser qu'ils nous serviront lorsque nous serons dans la gloire. Voici le sens. Il semble dire ici que nous jugerons les anges, mais c'est Dieu qui jugera les anges déchus. Mais pas juger ici, c'est dans le sens de commander, c'est dans le sens d'être au-dessus de tous ces anges. En fait, il y a d'autres commentateurs, c'est pour ça que j'ai lu ce commentaire, mais il y a d'autres commentateurs qui semblent dire que, oui, les saints, le verset dit « les saints », verset 2 dit « les saints jugeront le monde ». Tandis que quand on parle des anges ici, il dit « ne savez-vous pas que nous jugerons les anges ?» L'autre commentateur semble faire la différence. Les saints jugeront les anges, c'est Dieu qui jugera les anges déchus, mais nous, il semble le lier aux apôtres, aux 12 apôtres. Il semble le lier aux 12 apôtres. Et il y a beaucoup de références qui semblent le confirmer, mais je ne peux pas confirmer vraiment. Hein. On va lire dans Apocalypse, vous allez voir. Apocalypse chapitre 20. Ce qui importe, qu'on ait à les juger, qu'on n'ait pas à les juger, nous serons assis avec le Seigneur sur son trône. Et ce que nous aurons à faire, c'est lui qui nous en donnera le mandat. Alors, s'il nous donne le mandat de les juger, on les jugera. Amen. Amen. Voici comment on peut passer. Verset 4. Ça parle de l'époque du millénium, justement, dont nous parlons. Apocalypse 20, verset 4. Il dit, « Et je vis des trônes, et à ceux qui s'y assirent fut donné le pouvoir de juger. Ceux qui étaient assis sur le trône, il fut donné le pouvoir de juger. Et je vis les âmes de ceux qui avaient été décapités à cause du témoignage de Jésus et à cause de la parole de Dieu et de ceux qui n'avaient pas adoré la bête, etc. Ils revinrent à la vie et ils régnèrent avec Christ pendant 1000 ans. Les autres morts ne revinrent point à la vie jusqu'à ce que les 1000 ans soient accomplis. » Donc en réalité, il dit, ce qui m'intéressait, c'est le début du verset 4. à ceux qui s'y assirent, donc sur les trônes qu'il a vus, fut donné le pouvoir de juger. Et si nous allons dans Matthieu chapitre 19, on fait un lien avec ce passage d'Apocalypse 20, le verset 27. Voici ce qu'il nous dit. Ça, c'est Jésus qui est en train de parler avec ses disciples. À partir du verset 25, il dit, les disciples ayant entendu cela furent très étonnés et dirent, qui peut donc être sauvé? Jésus les regarda et leur dit, aux hommes, cela est impossible, mais à Dieu, tout est possible. Pierre, prenant alors la parole, il lui dit, voici, nous avons tout quitté et nous t'avons suivi. Quand sera-t-il pour nous? Jésus leur répondit, c'est ici. Je vous le dis en vérité, quand le Fils de l'homme, au renouvellement de toutes choses, pendant ce millénium là-bas, au renouvellement de toutes choses, sera assis sur le trône de sa gloire, vous qui m'avez suivi, vous serez de même assis sur 12 trônes et vous jugerez les 12 tribus d'Israël. On essaie de faire le lien, on dit, ben, le « nous », ça pourrait être les 12 apôtres. Est-ce que ça a vraiment de l'importance pour nous? Est-ce que nous tenons absolument à être là pour juger les anges? Si c'est le cas, gloire à Dieu. Si ce n'est pas le cas, gloire à Dieu. Amen. Amen, amen, amen. Donc, quoi qu'il en soit, comme je dis ici, nous devons savoir que nous qui avons cru, une position spirituelle en Jésus-Christ qui est supérieure à celle des anges. Ça, c'est une certitude. En Jésus-Christ, nous avons une position supérieure aux anges. Aujourd'hui, nous n'avons pas vraiment une conscience, hein, parce que nous sommes dans un monde déchu, mais ce jour-là, quand tout sera dévoilé, quand toute la connaissance sera... Nous sommes encore voilés aujourd'hui dans le monde déchu, mais ce jour-là, nous saurons exactement quelle est notre position. Nous allons voir que nous sommes au-dessus des anges. Hébreux 2, verset 7. On va lire quelques versets là-dedans encore. Il justifie que nous sommes au-dessus des anges. Il dit ceci. « Tu l'as abaissé pour un peu de temps. » Ça parle de Jésus, dans le fond. Ça parle de Jésus. Il dit « Tu l'as abaissé pour un peu de temps au-dessous des anges. Tu l'as couronné de gloire et d'honneur. Il a été abaissé quand il est venu sur terre pour souffrir, mener cette vie de souffrance, entrer dans ce corps humain. Il a été abaissé en dessous des anges. Mais c'était pour un peu de temps, parce qu'après la croix, il a été relevé, il est remonté et à son trône. Donc Jésus a abaissé pour un peu de temps au-dessus des anges à cause de tout ce qu'il y a eu comme humiliation, à cause de toutes les souffrances qu'il a eues dans lesquelles il est venu sur terre. Mais il a été élevé par la suite dans la gloire, parce qu'il a souffert, il a été élevé ensuite par la gloire, et il a été élevé avec l'homme qu'il a racheté. Si vous lisez dans la suite, Hébreux 2, verset 10, vous voyez qu'à la suite de ça, tu l'as abaissé pour un peu de temps au-dessus des anges, mais au verset 10, il dit, il convenait en effet que celui pour qui et par qui sont toutes choses, et qui voulait conduire à la gloire beaucoup de fils, est élevé à la perfection par les souffrances, le prince de leur salut. Car celui qui sanctifie et ceux qui sont sanctifiés sont tous issus d'un seul. Donc, avec lui, nous avons été élevés donc, à la gloire. Donc, tous les hommes qui croient en Jésus-Christ sont un, on vient de le dire, un avec lui, et ils ont automatiquement reçu une position supérieure à celle des anges. Mais en réfléchissant, je me suis dit qu'il n'y a pas que ces passages qui nous le disent, qui nous disent que nous avons une position supérieure. Nous avons reçu la position supérieure et elle est justifiée aussi par une série d'autres raisons que j'ai notées ici. D'abord parce que c'est l'homme qui a été créé à la ressemblance de Dieu, pas les anges. L'homme a été créé à la ressemblance de Dieu, donc il aille s'asseoir sur le trône avec le Seigneur, ce n'est pas étonnant parce qu'il a été créé à la ressemblance. Les anges n'ont pas été créés à la ressemblance de Dieu. Parce que les anges aussi ont été créés pour être, on vient de le lire, pour être au service de Dieu et au service de l'humanité. Parce qu'aussi, c'est pour l'homme que Christ est mort. Christ n'est pas mort pour les anges déchus. Il est mort pour les hommes. Tout ceci confirme la primauté que nous avons, la supériorité que nous avons par rapport aux anges. Mais aussi parce qu'on vient de le lire, parce que c'est l'homme qui règnera avec Christ dans le royaume terrestre à venir. C'est l'homme, pas les anges. Qui sera sur le trône, c'est l'homme. Nous serons assis avec Jésus sur le trône. Amen. Toutes les raisons qui justifient donc tout semble indiquer qu'effectivement nous jugerons les anges ou alors nous les commanderons ou nous leur donnerons des ordres, etc. Mais nous sommes supérieurs aux anges. Le verset 4 nous dit ceci. Si donc vous avez des différends pour les choses de cette vie, ce sont des gens dont l'Église ne fait aucun cas que vous prenez pour juges. Alors que vous êtes appelés à juger les anges, alors que vous êtes appelés à juger les nations, au contraire, vous vous tournez vers des juges Faire des juges, c'est des non-croyants, entendez par là des non-croyants, des gens qui ne sont pas qualifiés parce qu'ils n'ont pas la sagesse d'en haut, parce qu'ils ne sont pas éclairés. Et c'est des gens dont l'Église ne fait aucun cas parce qu'ils n'ont pas l'Esprit de Dieu en eux. Ils n'ont pas l'Esprit de Dieu en eux, ils n'ont pas la sagesse d'en haut. Voici ce que ça veut dire que ceux dont l'Église ne fait aucun cas, n'ont pas la sagesse d'en haut. Voici les quatre premiers versets où Paul vient de mettre comme la table, il vient de vraiment de préciser, il dit, par rapport à tout ce qui se passe, vous faites erreur de vous adresser aux gens de l'extérieur, vous auriez dû le faire à l'intérieur. Et il poursuit donc dans les versets 5 à 11, Paul donc va évoquer trois façons qu'il croit donc bonnes pour régler ce genre de querelle entre frères et sœurs. On va lire les versets 5 jusqu'au verset 11. « Je le dis à votre honte, ainsi il n'y a parmi vous pas un seul homme sage qui puisse prononcer un jugement entre ses frères. Mais un frère plaide contre un frère, et cela devant les infidèles. C'est déjà certes un défaut chez vous que d'avoir des procès les uns avec les autres. Pourquoi ne souffrez-vous pas plutôt quelque injustice? Pourquoi ne vous laissez-vous pas plutôt dépouiller? Mais c'est vous qui commettez l'injustice et qui dépouillez, et c'est envers des frères que vous agissez de la sorte. Ne savez-vous pas que les injustes n'hériteront point le royaume de Dieu? Ne vous y trompez pas. Ni les débauchés, ni les idolâtres, ni les adultères, ni les efféminés, ni les homosexuels, ni les voleurs, ni les cupides, ni les ivrognes, ni les outrageux, ni les ravisseurs n'hériteront le royaume de Dieu. Et c'est à ce que vous étiez, et c'est là ce que vous étiez quelques-uns d'entre vous, les gentils. Mais vous avez été lavés, mais vous avez été sanctifiés, mais vous avez été justifiés au nom du Seigneur Jésus-Christ et par l'Esprit de notre Dieu. Nous venons de loin. Vous avez été lavés, justifiés, ne tombez pas dans les erreurs du passé. Donc, dans ces versets, Paul va évoquer trois façons, comme trois recommandations qu'il leur fait pour savoir comment régler les querelles entre les frères. Si ça arrive, ça ne devrait pas, mais quand ça arrive, bon, il y a quand même des moyens de les régler à l'intérieur. Et il commence par se moquer d'eux. Il dit, je le dis à votre honte. Je le dis à votre honte, avec tout ce que vous avez appris au niveau où vous êtes, ça ne devrait pas arriver. Vous qui êtes si arrogant, hein, vous dites que nous sommes supérieurs aux autres, nous connaissons, nous avons la connaissance, etc. Mais c'est vraiment à votre honte parce que vous êtes incapable de trouver un seul homme, c'est ce qu'il dit. Il n'y a parmi vous pas un seul homme sage qui puisse prononcer un jugement entre ses frères. Vous n'êtes pas capable de trouver personne entre vous qui soit en mesure d'amener les deux frères, les deux parties qui sont en désaccord, en différent, de trouver un terrain d'entente, à s'humilier et à trouver un terrain d'entente et à chacun qu'il voit quelle est sa part de responsabilité. Si nous prenons le temps avec deux frères, mais il faut que ces frères soient disposés. Vous savez l'Église comment elle est, hein, c'est ça l'affaire. Et c'est là que, est-ce qu'on est chrétien de nom ou on est chrétien? Tout revient à ça. Quand on est véritablement chrétien, sauvé, libéré de toutes ces choses, s'humilier, ce n'est pas un problème. Ce n'est pas un problème. On va dire de moi, qu'est-ce qui importe? Ce que les gens vont dire ou ce que Dieu va dire de toi? Quand ils voient que tu t'humilies, ils voient que tu as compris quelque chose. Donc, ne trouvez peut-être pas capable de trouver quelqu'un qui va les aider à s'humilier, à reconnaître leur part de responsabilité. Vous n'êtes pas capable de le faire et d'amener quelqu'un qui va faire la médiation. Donc, la première solution qu'il propose, c'est de ne pas amener les gens en cours. C'est certainement, même à l'interne, de ne pas les exposer devant tout le monde. Trouver un frère qui a une certaine sagesse, il va les prendre de côté, qui va leur parler et les aider à la médiation. On examine le problème froidement et honnêtement et sincèrement. Qui a tort, qui a raison? Celui qui a tort, humilie-toi mon frère, humilie-toi ma sœur, et puis le problème est réglé. Et on avance. La médiation, c'est la première solution qu'il propose quand il y a des différends dans l'Église. Et la Bible en parle. Quand tu connais un frère à péché ou à fait du mal, va le voir, cela, cela, etc. Donc, la médiation d'un frère est une des premières solutions que Paul propose. Quand on va au verset 7, on l'a lu dans les versets 5 à 6, donc un seul homme sage qui puisse prononcer un jugement entre ses frères. Alors, au verset 7, il dit, c'est déjà certes un défaut chez vous que d'avoir des procès les uns avec les autres. C'est déjà pas une bonne chose. Mais pourquoi ne souffrez-vous pas plutôt quelque injustice? Pourquoi ne vous laissez-vous pas plutôt dépouiller? C'est déjà un échec d'avoir des procès dans l'Église du Seigneur. pour une église qui se glorifiait de ses dons et de toutes ses richesses, des membres distingués. Ça, il y avait des Grecs là-bas, des gens de classe supérieure. Vous vous glorifiez de ces choses là-bas, mais vous arrivez quand même à aller vers des procès. Il dit, c'est déjà un défaut de ça. Pourquoi ne pas supporter l'injustice? On n'aime pas beaucoup ça. On n'aime pas beaucoup ça. Pourquoi ne pas se laisser dépouiller? Pourquoi ne pas le faire? Et pardonner, évidemment. Je me laisse pas, je supporte pas juste l'injustice, mais c'est parce que je pardonne, j'accepte de pardonner. Ce frère m'a fait ça, je comprends, mais j'accepte, je pardonne, je passe par-dessus. Pourquoi ne faites-vous pas ça? Mais nous voulons toujours faire valoir nos droits. C'est mon droit. Ah non, même si je suis à l'église, je ne peux pas marcher sur mes pieds. Même si je suis à l'église, je ne peux pas. Des fois, il faut accepter. Ça ne te tue pas. Ça n'arrête pas ta vie. Des fois, pour qu'il y ait la paix, tu dis, frère, on arrête là, je t'accorde le pardon. Si tel était le cas, que moi j'avais raison, je t'accorde le pardon, etc. Mais plutôt que de tout le temps faire valoir ses droits, c'est quelque chose que la Bible recommande beaucoup depuis l'Ancien Testament. Si nous allons dans Lévitique, chapitre 19, depuis l'Ancien Testament, Lévitique, chapitre 19, ce n'est pas quelque chose de nouveau qu'on amène, mais déjà, le verset 17, je vais lire, « Tu ne haïras point ton frère dans ton cœur. » Tu auras soin de reprendre ton prochain, mais tu ne te chargeras point d'un péché à cause de lui. Tu ne te vengeras point. Des fois, acceptez les souffrir. Ne vous vengez pas. Tu ne te vengeras point et tu ne garderas point de rancune contre les enfants de ton peuple. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. L'amour encore, l'amour encore, l'amour. L'amour passe par-dessus tout. L'amour peut faire en sorte que tu ne gardes pas rancune. C'est comme si on ne t'a rien fait. Tu dis, oui, c'est vrai, j'ai senti mal, mais je pardonne et on passe à autre chose. Nous sommes des frères. Nous sommes des frères. Amen. Jésus lui-même, je vais prendre aussi un autre passage. Jésus lui-même en a donné l'exemple. On lit dans 1 Pierre, chapitre 2. 1 Pierre, après l'épître de Jacques, chapitre 2, le verset 19. Je vais lire à partir du verset 19. Je dis ceci. Car c'est une grâce, de supporter des afflictions par motif de conscience envers Dieu quand on souffre injustement. En effet, quelle gloire y a-t-il à supporter de mauvais traitements pour avoir commis des fautes? Mais si vous supportez la souffrance lorsque vous faites ce qui est bien, c'est une grâce devant Dieu. Donc on n'aime pas ça, mais pourtant c'est une grâce devant Dieu de supporter l'injustice. Il dit, c'est à cela que vous avez été appelés, parce que Christ aussi a souffert pour vous, vous laissant un exemple afin que vous suiviez ses traces. Lui qui n'a point commis de péché, dans la bouche duquel il ne s'est point trouvé de fraude, lui qui, injurié, ne rendait point d'injure, maltraité, il ne faisait point de menace, mais il s'en remettait à celui qui juge justement. Laissons Dieu juger, ne jugeons pas les autres. Acceptons parfois d'être tout simplement traités, maltraités ou injuriés, etc. Acceptons-le, acceptons-le. Ça fait allusion en fait à ce qu'Ésaïe dit de Jésus. Il a accepté comme un agneau qu'on a mis à l'abattoir sans se justifier, etc. C'est une citation de ce passage que l'on donne. Jésus donc nous en a donné l'exemple et nous devrions donc supporter et pardonner. Deuxième solution, supporter et pardonner. On n'a pas besoin de justifier, frère. C'est arrivé. Est-ce qu'on peut, de commun accord, tourner la page? Et on passe par-dessus, je pardonne et on n'en parle plus. Pourquoi? Parce que c'est bon pour sauvegarder les bonnes relations qu'il doit y avoir entre frères et sœurs, pour sauvegarder un bon climat dans l'église, pour sauvegarder la réputation de l'église. Une église dans laquelle il y a des chicanes du 1er janvier au 31 décembre, hein, je ne sais pas quelle réputation est là. Donc nous devons veiller à la réputation de l'église, c'est ta responsabilité et c'est la mienne, de veiller sur la réputation de l'église. J'ai noté ici qu'un chrétien ne doit pas considérer avoir gagné. Même si vous allez devant une médiation, tu ne peux pas sortir de là comme quelqu'un dit « Yeah, j'ai marqué mon point ». Non, un chrétien ne peut pas considérer avoir gagné quand le royaume de Dieu est bafoué, quand le royaume de Dieu est perdant dans l'affaire. Un chrétien ne peut pas gagner. Tu ne peux pas dire « Oui, aux yeux des gens, tu as gagné. Oui, aux yeux des gens, on t'a donné raison, mais tu as fait mal à l'œuvre de Dieu. Le royaume de Dieu est bafoué. Le royaume de Dieu en souffrira longtemps. » Un chrétien, ne cherchons pas toujours à gagner. Regardez l'exemple d'Abraham en Genèse 13. C'est bien, je ne vais pas la raconter de mémoire. Quand il sortait avec son neveu Lot, je vais lire à partir du verset 7. Hein, donc, il y eut une querelle. Ce n'est pas d'aujourd'hui. Il y eut une querelle entre les bergers des troupeaux d'Abraham et les bergers des troupeaux de Lot. Les Cananéens et les Phérisiens habitaient alors dans le pays. Abraham dit à Lot, Regardez, c'est vraiment, j'ai lu ça, j'ai souligné, et ce n'est pas la première fois que je l'ai souligné, d'ailleurs, ce n'est pas aujourd'hui, je m'aperçois que je l'ai souligné il y a longtemps, c'est tellement important. Abraham dit à Lot, il dit, mais qu'il n'y ait point, je te prie, de dispute entre moi et toi, ni entre mes bergers et tes bergers. Pourquoi? Car nous sommes frères. Toutes les raisons sont là. Si nous nous considérons comme frères dans l'Église, frères et sœurs, bien-aimés, il y a des choses sur lesquelles on passe par-dessus. Pas parce qu'on est perdant, pas parce que tu es rabaissé. Tu n'es pas rabaissé. Oui, peut-être il y a des gens qui vont dire, oh, il s'est laissé faire. Mais lui, il sait pourquoi tu as fait ça. Parce que tu veux bâtir l'œuvre de Dieu. Tu veux supporter, tu supportes la douleur. Tu dis, mais pour que l'Église aille de l'avant, je me passe de ça. Je ne veux pas en faire cas. Je ne veux pas tenir compte de ça. Ça, c'est un enseignement profond dans l'Église. Profond dans l'Église, mais on a du chemin à faire. Confronté aux querelles, Abraham dit, je te prie. Pourtant, il était le plus âgé. Pourtant, c'est lui qui avait pris Lot avec lui. Je te prie qu'il n'y ait pas de querelle, ni entre toi et moi, ni entre mes bergers. Ce n'est pas juste entre les deux frères, même entre leurs bergers. Pas de querelle, car nous sommes frères. Car les Cananéens et les Phéréziens dont on parle, qui étaient dans le pays, nous verraient et ils diraient, oh, c'est ces gens qui disent qu'ils sont de Dieu. Nous sommes frères. Une raison suffisante pour passer par-dessus certaines situations. Et donc, s'il n'est pas avantageux pour des frères, des fois, je vais faire une extension dans le fond. Je dis, parfois, il va être mieux pour un frère de ne pas user de son droit, de ne pas user de sa liberté pour permettre que l'œuvre de Dieu aille de l'avant. Des fois, c'est mon droit de le faire, mais non, je m'en prive. Je m'en prive pour que l'œuvre de Dieu aille de l'avant. Amen. Donc, si ce n'est pas avantageux pour mes frères d'user de ma liberté, mais je ne dois pas en user. Si ce n'est pas avantageux pour l'Église que tu uses de ton droit, n'use pas de ce droit, parce que tu veux sauvegarder l'Église. Et nous voulons tout pour nous-mêmes. Moi, etc. Amen. Que le Seigneur nous aide vraiment à comprendre cet enseignement. Il est tellement profond. Verset 8, il dit, « Mais c'est vous qui commettez l'injustice et qui dépouillez, et c'est envers des frères que vous agissez de la sorte. » Il s'en prend aux deux parties. Paul s'en prend aux deux parties. À celui qui a commis la faute, aussi bien qu'à celui qui n'a pas supporté l'injustice. Il dit, c'est l'un et l'autre, vous êtes fautifs. Vous êtes fautifs là-dedans. Et ils montrent que par leur manque de charité, par leur manque d'amour, eh bien, ils ont fait du tort à leurs frères. Effectivement. Je ne veux pas revenir en arrière, mais vous savez, quand il y a chaque fois qu'il y a eu des situations difficiles que l'on a traversées dans l'Église, il n'y a pas que deux personnes qui sont affectées. Il y a tout le temps des ramifications à gauche et à droite. On fait du mal à l'Église du Seigneur. On ne s'en rend pas compte toujours. Et Paul montre d'ailleurs, en disant ça, il veut montrer aussi que souvent, des choses que nous ne sommes pas capables de supporter entre nous, frères, dans l'Église, les mêmes choses, les mêmes sévices, les mêmes problèmes, les mêmes coups, les mêmes injustices, nous sommes capables de les accepter quand nous les subissons des gens de l'extérieur. Lisons dans 2 Corinthiens, chapitre 11, verset 20. Il dit, à partir du 19, il dit, « Mais car vous supportez volontiers les insensés, vous qui êtes sages, vous les supportez. Si quelqu'un vous a servi, si quelqu'un vous dévore, si quelqu'un s'empare de vous, si quelqu'un est arrogant, parmi les insensés, ça, si quelqu'un vous frappe au visage, ça va jusque-là, vous le supportez. Mais à l'église, une petite égratignure, c'est comme si le monde entier est tombé sur toi. Mais à l'extérieur, on va jusqu'à vous frapper au visage et vous le supportez. Dis, j'ai honte de le dire, bien-aimé, parce que nous avons en cela monté de la faiblesse. Accepter que des choses comme ça, des petits problèmes soient grossis, affectent l'Église, le climat de l'Église n'est plus bon à cause des petites histoires. Nous avons eu de la faiblesse. On devait sévir là-dedans. On devait sévir. Mais il dit, mais ce que vous ne voulez pas qu'on vous fasse à l'interne, on vous en fait pire de la part des insensés et vous les supportez. C'est-à-dire quand il s'agit de vous, entre vous, frères, vous ne le supportez pas, vous ne l'acceptez pas. Alors donc, ce que vous acceptez des autres, vous n'êtes pas capable de l'accepter vis-à-vis de vos frères. Et Jésus évoquait même le même principe dans Matthieu chapitre 5, le même principe. Jésus-Christ est en train de poser les fondements du royaume. Il y a beaucoup d'enseignements profonds qui sont donnés là-dedans. Au verset 39, il dit, bon, vous avez appris, au 38, vous avez appris qu'il a été dit œil pour œil et dent pour dent. Mais moi, je vous dis de ne pas résister aux méchants. Si quelqu'un te frappe sur la joue droite, présente-lui l'autre, aussi l'autre. Si quelqu'un veut plaider contre toi et prendre ta tunique, laisse-lui encore ton manteau. quelqu'un te force à faire un mille, etc., etc. Jésus donc confirmait cette chose quand il en parlait, etc., de souffrir au lieu de causer du tort à un frère. Donc Paul veut ici les amener à prendre conscience que c'est possible de régler des différends. C'est la troisième façon, la première étant la médiation, la deuxième étant le fait de supporter et de pardonner, et la troisième c'est de reconnaître ses propres torts. Donc, j'abandonne mon droit personnel. Et puis, chacun s'efforce, évidemment, de reconnaître ses propres torts. Voici ce qui va permettre d'aider à bâtir l'Église, à faire avancer l'Église et à vivre en harmonie dans l'Église. Malgré tout ce qu'il peut y avoir comme source de problèmes, on devrait toujours arriver à les régler à l'interne. Alors, Paul termine cette deuxième partie, donc les deux derniers versets, je ne vais pas vraiment les lire, de 9 à 11, il fait comme une énumération, il termine cette deuxième partie par des exhortations. Nous avons lu ça dans les chapitres précédents, les cupides, les adultères, les idolâtres, les efféminés, les homosexuels, les voleurs, etc. Il dit, arrêtez de vous tromper, voilà ce que Paul dit, arrêtez de vous tromper, tous les vices qui sont énumérés là-bas. Ici, ne donne part à aucune part au royaume de Dieu. Tous ces vices ne donnent aucune part au royaume de Dieu. Arrêtez de vous tromper. La deuxième chose, c'est arrêter en le faisant d'attirer, dans le fond, de nouvelles condamnations sur votre conscience. Arrêtez ça. Changez. Vous qui avez été lavé, vous qui avez été sanctifié, vous qui avez été justifié, arrêtez de faire ces choses. Amen. Amen. Au contraire, Paul veut donc montrer que, comme on le disait dimanche, le salut... Quand on l'a, on l'a. Mais il exige, le salut est exigeant. Le salut exige une réponse à l'offre de la grâce que Dieu nous fait. Et il faut que ce soit une réponse appropriée. Mais il faut que ce soit une réponse aussi continuelle. Continuelle. Je n'ai pas eu le salut tel jour et ça s'arrête là et le reste, non. C'est une réponse continuelle. Continuelle. Dieu nous aide. Dieu nous garde. Dieu nous protège. Dieu nous donne tous les moyens de demeurer dans ses voies. C'est à nous de travailler. Travaillez continuellement. Philippiens chapitre 2, verset 12. Travaillez à votre salut avec crainte et tremblement. Avec crainte et tremblement. Donc, c'est la réponse appropriée et continuelle de la part du croyant qui va nous aider donc à continuellement demeurer dans notre salut. Amen. Voici donc la deuxième partie. Et puis la dernière partie... fait quand même 8 versets, à partir du verset 12 jusqu'au verset 20. Je vais le lire. Tout m'est permis, mais tout n'est pas utile. Tout m'est permis, mais je ne me laisserai pas asservir par quoi que ce soit. Les aliments sont pour le ventre et le ventre pour les aliments. Et Dieu détruira l'un comme l'autre. Ce n'est pas des choses qui vont demeurer. Mais le corps n'est pas pour la débauche. Il est pour le Seigneur et le Seigneur pour le corps. Et Dieu qui a ressuscité le Seigneur nous ressuscitera aussi par sa puissance. Ne savez-vous pas, encore une fois, que vos corps sont des membres de Christ? Prendrai-je donc les membres de Christ pour en faire les membres d'une prostituée? Loin de là. Continue. Ne savez-vous pas que celui qui s'attache à la prostituée est un seul corps avec elle? Car, est-il dit, les deux deviendront une seule chair. Et celui qui s'attache au Seigneur, verset 17, est avec lui un seul esprit. Nous l'avons vu quand nous parlions de siéger sur le trône. Celui qui s'attache au Seigneur est avec lui un seul esprit. Fuyez donc la débauche. Quelque autre péché qu'un homme commette, ce péché est hors du corps. Mais celui qui se livre à la débauche pêche contre son propre corps. Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous, que vous avez reçu de Dieu et que vous ne vous appartenez point à vous-même? Car vous avez été rachetés à grand prix, glorifiez donc Dieu dans vos corps et dans votre esprit qui appartiennent à Dieu. C'est clair que dans ce passage, Paul est en train d'évoquer tous les dangers de l'immoralité. Et on a vu une partie au verset, au chapitre précédent 5, mais il y revient ici parce que c'est tellement important. Compte tenu particulièrement de la situation dans laquelle vivaient les Corinthiens. Nous avons vu que la ville de Corinthe, c'était une ville prostituée, c'était une ville, en tout cas, où régnait le mal, on va dire ça tout court. Et donc, il évoque encore les dangers de l'immoralité, il appelle les Corinthiens à la sainteté, exhorter les gens à la sainteté, plutôt que d'abuser de cette liberté. Hein, quand Christ vous a franchi, si le Fils vous a franchi, vous êtes réellement libre. Jean 8, 36, c'est vrai. Mais il ne faut pas abuser de cette liberté. C'est un beau cadeau de Dieu que nous devons savoir utiliser à bon escient. À se servir de cette liberté pour faire n'importe quoi. Cette liberté ne signifie pas licence, que tout est permis. Donc, il commence à dire, tout m'est permis. Oui, parce que je suis libre. Tout m'est permis. Mais est-ce que tout est utile? Il ne nie pas que nous avons cette liberté. Il le reconnaît, il dit, c'est vrai. Tout m'est permis. C'est une vérité que je reconnais, cette liberté chrétienne, c'est une vérité qui est là, qui est vraie. Mais il déplore que les Corinthiens s'en servent pour justifier justement leur comportement immoral. Et c'est ça qui va mal, c'est ça qui ne va pas. Il attire l'attention donc sur le fait qu'une chose qui est permise, c'est une façon de reformuler ça, une chose qui est permise n'est pas toujours utile. Pas toujours utile, c'est pas parce que c'est permis que c'est utile. Donc tu peux t'en passer. Mais au contraire, si elle n'est pas utile et que tu y vas, des fois ça peut te rendre esclave. Et c'est ça le risque. Tu peux devenir esclave. Il faut éviter de se laisser asservir par quoi que ce soit. Pour vraiment lutter ça, il faut éviter tout abus, il faut éviter tout ce qui peut nous amener à un manque de maîtrise de soi. La liberté est là, mais ce qu'elle nous pousse à faire, est-ce que c'est utile? Si ce n'est pas utile, moi je n'irai pas là-bas parce que je peux y aller et aller manquer de maîtrise. Je peux y aller et aller chuter, aller en abuser. Je peux y aller. C'est pas utile, mais je m'en passe. Amen. Donc, au verset 12, c'est bien ce qu'il dit. Il ne nie pas que nous avons cette liberté, mais tout n'est pas utile dans ce que nous pouvons faire. Il dit, et je ne me laisserai pas asservir par quoi que ce soit. Au verset 13, il dit, les aliments sont pour le ventre et le ventre pour les aliments, et Dieu détruira l'un comme l'autre. Mais le corps n'est pas pour la débauche, il est pour le Seigneur et le Seigneur pour le corps. Oui, c'est vrai, les aliments sont pour le ventre. On les cultive pour qu'on puisse les manger. Et le ventre est fait pour qu'il puisse ingurgiter les aliments. Mais en fait, c'est une façon imagée de parler. Il faut simplement éviter de mettre, évidemment, toute la jouissance dans ces aliments. Donc, toute la jouissance, la vie entière, ça devient juste les aliments. Parler d'aliments, du pain. C'est un peu comme les Romains à l'époque, c'est le pain et les jeux. Le pain et les jeux. Donc, tout est permis, mais ce n'est pas utile. Ça détruit le peuple. Ils allaient y manger, ils allaient y vomir, etc. Faire vomir. Donc, il faut éviter, évidemment, de mettre toute la jouissance, tout ce que le Seigneur nous donne. Il nous donne des aliments, mais on ne peut pas mettre tout là-dedans. Il y a des gens pour qui les aliments, c'est un dieu. Là. Quand il va au restaurant, c'est un moment extraordinaire. Toutes ses énergies sont concentrées. Bien aimé. Bien que les aliments soient nécessaires pour le corps, mais on ne peut pas mettre toute sa jouissance dedans. Mais en réalité, Paul ne veut pas vraiment parler beaucoup d'aliments. Ce n'était pas ça le gros problème. C'est une allusion à l'idée que les relations sexuelles, c'était le mal là, à Corinthe. Hein. Et il compare ça à des aliments. Hein. Mais c'est vrai que autant les aliments sont un besoin biologique, autant les relations sexuelles sont un besoin biologique, physiologique. Donc, ils tendent, les Corinthiens, ils tendent à justifier leur conduite immorale en disant cela. Tout m'est permis. C'est bien de dire, les aliments sont bons pour le corps, c'est vrai. Les relations sexuelles sont bonnes aussi pour le corps, mais il faut savoir qu'il y a un cadre qui a été tracé par Dieu où ces relations doivent avoir lieu. Amen. Parce qu'à ce moment-là, c'est sanctifié, c'est quelque chose de bénéfique. Donc, en fait, il ne s'agit pas de justifier leur conduite immorale, mais ils oublient que le corps appartient au Seigneur. Et le Seigneur ne nous l'a pas donné pour la débauche. Il appartient au Seigneur. Il lui appartient parce qu'il l'a racheté. Il l'a racheté à grand prix. Il est allé à la croix pour ça, pour nous racheter de nos vaines manières de vivre. Il en a fait le temple du Saint-Esprit. Il appartient au Seigneur, le corps. Donc il ne faut pas imaginer que les péchés de la chair n'ont pas d'impact ou n'ont pas d'influence sur l'esprit de la personne. Nous sommes un. Nous sommes un seul être, corps, âme, esprit. L'un a des interférences avec l'autre. On ne peut pas se cacher derrière ça. Il y a des gens qui oublient à Corinthe que le Seigneur est pour le corps. Parce que pour eux, le corps, c'était quelque chose peut-être de passager qui va mourir, etc. On ne doit pas... C'est spirituel, les pensées, les idées, etc. Non. Le Seigneur est pour le corps. Dieu veut s'occuper de notre corps. Et il nous demande même de veiller sur ce corps, de le soigner. Nous devons en prendre soin parce que c'est le temple du Saint-Esprit. Il veille sur notre corps autant qu'il veille sur notre âme. Et cela, même si nous devons connaître la souffrance. Parce que tout de suite, on peut dire, mais s'il veille sur mon corps, pourquoi est-ce que je connais la souffrance? Oui, mais la souffrance, c'est la conséquence du péché, on le sait. La conséquence du péché de nos pères. Mais le Seigneur est en réalité celui qui nous guérit. C'est lui. Qui d'autre nous guérit? C'est lui. Ça veut dire qu'il veille sur nous. Nous crions, je suis malade, je ne me sens pas bien. Il nous guérit. C'est lui qui nous guérit parce que le Seigneur est pour le corps. Le Seigneur nous protège. Il nous renouvelle les forces. Quand on est fatigué à un certain âge, il nous renouvelle les forces. Le psaume 103, il dit, il te fait rajeunir. C'est lui qui le fait. Comme l'aigle peut de nouveau t'envoler. Parce que le Seigneur s'occupe du corps aussi. C'est lui qui nous protège contre les accidents, contre toutes sortes de maux qui peuvent nous faire mal. C'est vrai que le corps souffre encore aujourd'hui, mais le corps attend sa délivrance au moment de la résurrection parce que c'est un corps qui est destiné à ressusciter, c'est un corps qui est destiné à être transformé. Nous serons transformés et nous serons glorifiés et revêtus d'une nouvelle nature céleste. Notre responsabilité pendant que nous sommes sur terre, c'est de veiller sur ce corps. C'est le soigner. Quand je dis soigner, c'est tout, dans tous les sens. Dans tous les sens. Faire des exercices, même si je n'en fais pas beaucoup, ça fait partie de l'obligation que nous avons de soigner le corps, n'est-ce pas? Amen. Laver les dents, aller chez le dentiste, même si ça coûte cher, ça fait partie des soins que nous devons apporter à ce corps. Amen. Amen. Et au verset 15, il dit, « Ne savez-vous pas que vos corps sont des membres de Christ? Prendrai-je donc les membres de Christ pour en faire les membres d'une prostituée, étant membre du corps de Christ. » Le corps de Christ entendait ça aussi comme étant l'église du Seigneur. On ne peut pas faire de ce corps des membres de prostituées. On ne peut pas, on n'a aucun droit de le faire. Lisons les versets 16 et 17. Loin de là, il dit non, ce n'est pas vrai, on ne peut pas en faire des membres d'une prostituée, loin de là. Il renie ça, il dit, ne savez-vous pas que celui qui s'attache à la prostituée est un seul corps avec elle? Car, est-il dit, les deux deviendront une seule chair. Et celui qui s'attache au Seigneur est avec lui un seul esprit. Un seul esprit. Celui qui s'attache au Seigneur est avec lui un seul esprit. Donc il réfute ce droit d'aller livrer nos membres à des prostituées parce que ce serait, il fait allusion ici à ce passage de Genèse, chapitre 2, verset 24, hein, qui dit que c'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère, il s'attachera à une seule femme, etc. Et ils deviendront une seule chair. Il fait allusion à ça. Donc, aller livrer ses membres à des prostituées, ce serait transformer cette bénédiction du mariage. Les relations sexuelles, c'est une bénédiction dans le mariage. C'est des relations qui sont sanctifiées. Amen. C'est évoqué dans Genèse, chapitre 2, verset 24. Ce serait comme les transformer en malédiction. Parce que vous prenez une relation charnelle qui rabaisse votre âme, jusque votre âme, par le fait de vous lier à une personne qui est souillée. On n'a pas le droit de le faire. Nous ne nous appartenons pas. Il le dit aussi parce que toute relation sexuelle hors mariage est coupable et profane la personne de Jésus-Christ. Amen. Celui qui s'attache au Seigneur est un seul esprit avec lui. Celui qui s'attache au Seigneur est un seul esprit avec lui. Je vais lire un commentaire ici, que j'ai trouvé qu'il est bien dit. Paul appuie l'idée exprimée dans le verset précédent par une citation de Genèse 2, 24. Le verset cité déclare que lorsqu'un homme et une femme s'unissent dans une relation intime, ils deviennent une seule chair. Celui qui s'unit à une prostituée devient une seule chair avec elle. Ainsi, Christ est spirituellement lié à elle. Si nous sommes un avec Christ, c'est grave. Si on réalise ça, c'est grave. C'est grave. Nous profanons la personne de Jésus-Christ. Verset 18. Fuyez donc la débauche, c'est la solution. Quelque autre péché qu'un homme commette, ce péché est hors du corps, mais celui qui se livre à la débauche pèche contre son propre corps. Avec tous les arguments qu'on vient d'évoquer ici, ça doit nous pousser à fuir la débauche, tout simplement. Ce n'est pas des choses, je vais essayer, je vais jouer, je vais tenter. Fuir, la solution c'est de fuir la débauche, parce que c'est considéré comme étant un péché contre son propre corps. Déshonorer votre corps. Et en même temps, vous profanez la personne de Jésus-Christ. Et c'est là qu'il dit que même s'il y a d'autres péchés auxquels le corps participe, hein, il y a d'autres péchés auxquels, quand tu regardes, quand tu entends, quand tu as la haine, quelque chose à l'intérieur, quand tu as la colère, quand tu as un manque d'amour, le corps ne participe pas comme tel. Hein. C'est des péchés aussi, mais il dit que c'est plus grave encore les péchés qui touchent le corps. Il dit aucun ne contient, aucun de ces péchés ne contient une telle puissance de destruction du corps. Aucun. Oui, il détruit le corps. Quand tu as la haine, ça finit par te ronger, mais pas autant que le péché lié au sexe. Pas autant. Moi, je pensais, quand je lisais ça, je dis, mais Comment est-ce qu'on peut expliquer ça? Moi, je dis, regarde, tous les péchés comme le sida, les catastrophes que cela fait, le péché lié au corps vraiment a une puissance de destruction que nous pouvons imaginer et il faut l'éviter à tout prix. Il faut vraiment l'éviter à tout prix. L'autre commentaire ici, c'est que d'une certaine manière, le péché de débauche est particulièrement destructeur parce qu'il touche la personne dans son intimité. Il l'entraîne et la corrompt au niveau le plus profond de son être. Oui, et Paul, voilà. Paul fait toutefois probablement allusion ici à des maladies vénériennes aussi courantes et dévastatrices à son époque qu'aujourd'hui. Aucun autre péché ne contient une telle puissance de destruction du corps. Amen. Et donc, on termine ce passage avec les versets 19 à 20. Donc, ne savez-vous pas que votre corps, c'est comme pour conclure hein, cette partie, ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous, que vous avez reçu de Dieu et que vous ne vous appartenez point à vous-même, car vous avez été racheté à un grand prix. Glorifiez donc Dieu dans votre corps et dans votre esprit qui, eux, appartiennent à Dieu. Il rappelle que nous ne nous appartenons pas, tout simplement. Le jour où nous comprenons que nous ne nous appartenons pas, beaucoup de choses vont changer. Beaucoup de choses. Nous ne pouvons pas, nos pieds ne peuvent pas continuer à courir au mal. Notre bouche ne peut pas continuer à aller faire ceci. Il n'y a pas que la débauche, même les autres histoires, etc. Nous ne les ferons pas parce que nous ne nous appartenons pas. Nous sommes le temple du Saint-Esprit. Et donc, nous avons, ayant été rachetés à grand prix, nous devons donc, comme il termine, glorifier Dieu dans notre corps et dans notre esprit. Il termine en disant, glorifiez donc Dieu. Est-ce qu'il donne le choix? C'est un commandement, c'est un ordre. Nous avons été créés pour cela. Pas pour vivre pour notre gloire, mais nous avons été créés pour vivre pour la gloire de Dieu. Et nous devons le glorifier dans notre corps et dans notre esprit, qui, les deux, appartiennent à Dieu, comme nous-mêmes, nous appartenons à Dieu. Donc voilà la fin de ce chapitre 6. Seigneur, nous aide à tirer toutes ces leçons-là. Donc, si on n'est pas concerné par la partie qui touche l'immoralité, gloire à Dieu, mais il y a d'autres choses, les querelles auxquelles nous sommes exposés, etc., nous puissions tirer les meilleures leçons de tout ça et que nous puissions avancer. Amen.